C'est Manu No Militari de la Brigade des Clowns International. Nous sommes à Strasbourg dans le cadre du contre-sommet de l'OTAN et dans le cadre de notre opération, nous avons été stoppés par de vaillants sentinelles, des clowns tristes. Donc là, ça fait bien une demi-heure qu'on a pu créer de manière spontanée une zone autonome de jeu et temporaire. Voilà, tout se passe bien, c'est détendu, les clowns tristes sont réellement tristes, les clowns joyeux sont réellement joyeux. Ciao.
Ouais, salut Mermet, c'est les lycéens de Nancy qui sommes partis à Strasbourg pour le contre-sommet de l'OTAN. Donc on est arrivé déjà avec 4 heures de retard parce que tous les flics nous ont ont essayé de nous empêcher d'arriver à Strasbourg. Malgré ça, on a quand même réussi à arriver. On est débarqué dans des rues, il n'y avait pas une seule voiture, c'est les gens qui étaient à pied au milieu des rues. On a fini par voir une station essence apparemment qui a brûlé. Ça a servi de point de rassemblement. Puis à ce moment-là, tout le monde s'est dirigé par là. Et donc là, à partir de là, la manif a pu partir. Et c'est les anarchistes qui mènent la danse. C'est une situation assez inimaginable. C'est, ouais, c'est presque l'anarchie. Là, on va vers le centre-ville. Tchou.
Oui, bonjour à tous les AMG, bonjour à Daniel et à toute l'équipe, c'est Véro de Strasbourg. Nous sommes dimanche et enfin notre ville, assiégée depuis le début de la semaine, retourne à la vie normale, si je puis dire. La violence a profondément terni la manifestation des anti-OTAN. Pourquoi d'ailleurs ne pas faire des sit-ins plutôt que des marches ? J'ai toute sympathie pour les pacifistes, les vrais, qui se sont vus confisquer leurs manifestations par des éléments violents. Les médias ne retiendront que ces encagoulés parce que miroir d'une société à la dérive. J'aurais aimé entendre Olivier Besancenot samedi soir aux 20h, non pas comprendre ce déchaînement de violence, mais le condamner fermement. Les casseurs s'en sont même pris à une chapelle dont ils ont souillé les murs et défoncé la porte d'entrée. Quel rapport avec l'OTAN, je me demande. Ces énergumènes nous laissent des ruines, des façades calcinées, des riverains choqués. Une odeur âcre de plastique brûlé plane encore dans le quartier. Quelle tristesse. La violence, d'où qu'elle vienne, et j'insiste, d'où qu'elle vienne, ne grandit pas ses auteurs. Voilà, c'était Véro, pacifiste de Strasbourg.
Allô, bonjour, je suis Alexis de Strasbourg. Je suis en train de travailler, je suis un simple routier qui est en train de se taper tout le contournement de Strasbourg. Bon, à part que ça me fait pas trop plaisir de faire des heures sup pour rien. Je me dis que sur Strasbourg, ça chauffe. Il fait 20 degrés, mais dans certains quartiers, il fait beaucoup plus que ça. Alors, Strasbourg, c'est devenu, j'ai l'impression, le pays des schtroumpfs, avec plein de petits hommes en bleu. Et puis dans le tas, il y a des schtroumpfs noirs qui cassent tout sur leur passage, qui mettent le feu. Et pourtant, près des postes de douane, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a personne pour les arrêter. Ils cassent tout et puis ils investissent le cortège pacifiste qui doit aller sur Strasbourg pour s'exprimer simplement. Et ils peuvent pas. Et à Strasbourg, ils sont aussi bloqués au sud de Strasbourg parce qu'aucun bus ne peut arriver. Donc je ne sais pas si ces petits hommes en noir, ils sont pas là, laissés en liberté pour éviter qu'il y ait trop de gens qui râlent dans les rues à Strasbourg. Bon, je me pose des questions. Merci, et puis merci pour votre émission.
Auditeurs modestes et géniaux, bonjour, toujours Manu Militari, à la fin de l'occupation de la rue à Strasbourg. Nous avons été évacués au bout de deux heures environ par les canons à eau, par les lacrymogènes, par les bombes assourdissantes. Voilà, on a démontré que les clowns tristes étaient très 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 tristes. Voilà. Nous avons gagné une victoire. Nous rentrons tranquillement. Voilà. Vivement demain pour la deuxième bataille du rire. Nous allons combattre avec amour et humour. Voilà. Ciao.
Alors de l'amour, il y en a eu sans doute. De l'humour, il y en a eu sans doute. Mais quand même pas beaucoup au cours de ce week-end à Strasbourg. Vous avez vu les images, vous avez lu les commentaires, les doutes sur la façon dont les choses se sont déroulées. Nous, on était avec notre Pascal, le Pascariello, à Strasbourg, à l'intérieur de la manif, mais pas seulement pour des quelques images brutales et violentes, mais plus en longueur. elle a passé pas mal de temps avec ses manifestants pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est très très simple, c'est une vieille méthode, il s'agit de criminaliser l'opposant. Il s'agit de faire amalgame entre les manifestants radicaux et parfois violents et ceux qui veulent simplement exprimer une opinion qui n'est qu'une opinion, et nous sommes en démocratie, et cette opinion, c'est de s'élever contre la réintégration du commandement de l'OTAN par la France. C'est simplement ce que voulait dire la majorité des manifestants qui étaient là, que certains aient recours à la violence. On va finir par le comprendre d'autant plus facilement que cette violence est évidemment provoquée. Il y avait une situation de tension, d'exclusion, d'interdiction de l'expression du manifestant, qui est un droit, il faut le rappeler, qui est après tout un droit démocratique dans un cadre général de crise financière qui ne peut entraîner que des réactions violentes. D'ailleurs, on s'étonne que avec une suppression de plus de 3000 emplois par jour dans ce pays, on soit aussi calme. C'est notre reportage du jour. Ce sera la première partie de cette émission. Et la deuxième, on va retrouver l'équipe du monde diplomatique. Et oui, comme chaque mois, on retrouve l'équipe du Diplo, pas si diplomatique que ça d'ailleurs. Et ça, des entretiens conduits par Guy Vanquetil. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassi, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, ici c'est la Suisse. Je voulais juste dire au petit Nicolas que sa liste grise, comme dirait l'édite, on n'en a rien à cirer, car nous on a la nôtre, celle de tous les gros clients qu'il nous a gentiment amenés avec son beau cabinet d'avocats.
Oui, bonjour Daniel, pour une fois je suis pas d'accord avec toi. Tu viens de dire, si la France avait été en 2003 membre du conseil militaire de l'OTAN, il y aurait des soldats français en Irak. Ben c'est pas vrai. Moi, j'habite en Allemagne. L'Allemagne était contre la guerre d'Irak. L'Allemagne est dans le commandement militaire de l'OTAN. Et il n'y a aucun soldat allemand qui soit allé travailler en Irak. Alors, j'aime pas beaucoup l'OTAN, pas forcément plus que toi, mais c'est pas une raison pour dire des contre-vérités. On aurait pu être contre la guerre d'Irak, même si on avait été dans le commandement militaire de l'OTAN, comme l'a été l'Allemagne. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a aucun militaire allemand en Irak. À part ça, bah, tout va bien. Ici, c'est beau. Bonjour à tous.
Oui, bonjour Daniel, je viens, Michel du Nord, là, je viens de voir sur le journal local que le livret A pourrait bien passer à 1,25%. Eh bien, les banquiers, c'est des beaux fumiers. C'est des fumiers. Non seulement ils dilapident le fric, mais en plus, ils viennent nous pomper sur nos économies. Écoute, moi, je sais pas où on va, mais en tous les cas, la France, c'est un beau pays de merde.
Oui, bonjour, j'appelle pour annoncer la tenue du repère de Dijon, mardi 7 avril à 20h. Alors ça a lieu au Vieux-Léon, c'est 52 rue Janin à Dijon. Alors cette fois-ci, on va évoquer le thème de l'amiante. Voilà, à mardi, portez-vous bien.
Salut, à Perpignan, le repère aura lieu le jeudi 9 avril à 18h30 au Lisboa. Bonnes vacances, ou bien à jeudi.
Salut Daniel, j'ai participé à la manifestation pacifique anti-OTAN à Strasbourg samedi dernier pour dénoncer la honte de cette organisation criminelle, impérialiste et guerrière qu'est l'OTAN. Sarkozy a tout fait pour interdire la manifestation dans Strasbourg et avec son gouvernement et la honte de la violence policière, ils ont tout fait pour mettre de l'huile sur le feu. Je trouve aussi lamentable que cette casse a frappé un quartier défavorisé, le port du Rhin, pour laquelle nous comprenons ce qu'ils ont vécu. Et nous les soutenons, comme d'ailleurs beaucoup nous ont soutenus pour cette manifestation pour la paix dans le monde. À plusieurs reprises, les policiers mettaient des barrages pour diviser le cortège. Ce sont eux les provocateurs, car au Jardin des Deux-Rives, super ambiance. Carton rouge à la police violente par abus, gouvernement et Sarkozy menteurs, car il y a eu en effet des blessés. Non seulement le sommet de l'OTAN a été un échec, mais les libertés d'expression aussi. Oui à la dissolution de l'OTAN, oui à la paix entre les peuples. C'était Philippe d'Alsace. Merci.
Alors que toutes les manifestations anti-OTAN de la matinée étaient plutôt bon enfant, la situation dégénère vers midi brutalement à l'approche du pont de l'Europe. Les manifestants, allemands et français, devaient se retrouver sur le pont du Rhin, mais la police les en a empêchés et les esprits se sont vite échauffés.
TF1, 4 avril 2009.
C'est une guérilla urbaine à la périphérie de Strasbourg. Ce n'est qu'à 15h, avec 2 heures de retard, que la manifestation officielle démarre. En tête de cortège, des partis politiques et les collectifs pacifistes anti-OTAN très choqués par la situation.
Bah, qu'il y a un état de siège complètement délirant.
Olivier Besancenot.
Nicolas Sarkozy a tout fait, absolument tout, pour que cette manifestation n'ait pas lieu. Elle a eu lieu.
En fin de cortège, un millier de casseurs dévastent tout sur leur passage. Pris en étau par les forces de l'ordre, les militants pacifistes subissent les assauts de la police et les actions des manifestants les plus virulents.
C'est dans une ville de Strasbourg quasiment en état de siège que l'OTAN va donc célébrer son 60e. Seuls les professionnels chargés de l'organisation.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello et Guy Vanctil. No to NATO, oui au diplo.
Moi, c'est Damien, j'ai 20 ans. Bah, j'habite à proximité de Strasbourg et donc. Je suis venu voir tout d'abord le camp anti-OTAN. Après, je me suis dit que 70 000 personnes qui manifestent, c'est qu'il devait vraiment se passer quelque chose à Strasbourg. Donc j'ai suivi. Et depuis ce matin, je regarde ce qui est en train de se passer. C'est vrai que depuis ce matin, ça a quand même pas mal dégénéré. Mais c'est les Black Blocs, c'est comme ça, c'est leur culture. On savait qu'ils allaient venir, on savait qu'ils allaient faire ça. Et donc ça a pas loupé, quoi. Depuis ce matin, c'est guérilla urbaine. On est au-dessus d'une voie de chemin de fer à proximité de la douane qui a brûlé ce matin. Et là, c'est le parcours officiel de la manifestation. C'est juste que...
Ah non, oula. Alors là, là, on est obligé de partir.
Ouais. Et là, comme vous voyez, les Black Blocs, dès qu'ils voient des policiers, ben, c'est la guérilla urbaine.
Il y a des jets de pierre.
Là, ça charge, là, ça charge.
Là, ça charge, il faut partir. Ouais, là, par là, non venez. À chaque fois, là, ça charge comme ça.
En direct, seulement des envois de bombes étourdissantes et des cocktails Molotov. À chaque fois, ça se passe sur un point. Il y a des échauffourées avec la police. Et après... Ah.
Merde.
Et après, aïe. La manifestation continue. Les Black Blocs sont dans un esprit de anarchique, en fait. Ils n'acceptent pas le capitalisme, ils n'acceptent pas les frontières, les forces de police. C'est ça qui est en train de se passer, en fait. Ça peut permettre aux gens de réfléchir aussi à de ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Même si je cautionne pas la violence, ça va permettre aux gens de se poser des questions. Je veux dire, là, les politiques, ils pourront pas dire que quand il y a une grève, on s'en rend pas compte. Là, vous le voyez, il y a des émeutes devant nous.
Oui, il y a des gros affrontements, là, avec la police.
Des affrontements, là. C'est en train de bouger, quoi. On peut pas le nier, tout simplement. Je veux pas non plus aller dans l'abus, mais on a bien vu en 1789 ou à mai 68, les crises sont toujours devenues violentes. Donc je pense que là, c'est en train de se passer. C'est peut-être un ras-le-bol général. Au camp anti-OTAN, c'était que des jeunes, mais faut pas croire, il y avait aussi beaucoup de trentenaires, même de retraités. Comme vous pouvez aller le voir à la manif, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de vieux. C'est un peu toute la société qui en a ras-le-bol. À Strasbourg, ça fait une semaine qu'on est fliqué. Il y a des CRS partout. Quand je rentre chez moi, on me demande trois fois mon nom d'identité. À l'entrée de chez moi, il y a quelqu'un qui me demande mon identité. C'est aussi un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol sécuritaire, là.
Et vous, Damien, vous faites quoi? Vous êtes étudiant?
Moi, je fais un diplôme d'éducateur, en fait. Je travaille dans une école primaire. Je suis engagé assez dans le mouvement étudiant à Strasbourg contre les réformes de l'enseignement universitaire. Et bon, à Strasbourg, c'est quand il y a une manif étudiante, c'est 2000 personnes, c'est pacifique. Tout le monde en prend plein les yeux, on hallucine, quoi. On savait que les Black Blocs, c'était impressionnant, mais quand on les voit de près, ils rigolent pas, ces gens-là. Ils viennent très organisés, ils viennent à beaucoup, et ils rigolent vraiment pas.
Alors là, il faut courir, je crois. Non? Ben, en même temps, tout le monde court vers nous.
Non, mais si tout le monde court, peut y avoir des mouvements de foule. S'il y a quelqu'un qui tombe, c'est terminé. Là, c'est juste des grenades étourdissantes.
Ah, c'est pas agréable en même temps, les grenades étourdissantes.
Non, mais depuis 3 jours, c'est étourdissante, c'est lacrymogène.
Ah, c'est bien, vous avez plein de petits trucs pour les yeux.
Si, vous m'entendez. Obligé.
T'avais mal, ouais. Merci. Merci beaucoup.
Je précisais que le genre de copain, il a mis des trucs dans l'œil.
Oui, je préciserai qu'on m'a mis des gouttes dans l'œil. C'est utile maintenant, les gouttes dans les yeux.
Il y a une medical team qui s'organise. Il y a des gens qui restent dans la manifestation avec une pharmacie, tout simplement. Ils essayent de se faire repérer et ils soignent les gens, en fait.
Face aux policiers, qu'ils qualifient de bras armés du capitalisme, ces manifestants font bloc.
TF1, 5 avril 2009.
Ils ont le plus souvent le corps et le visage recouverts de noir. Les Black Blocs, plus qu'un groupe homogène, se définissent comme partisans d'une tactique commune, une manière de manifester qui assume le recours à la violence. Action coup de poing médiatique, mais interdiction de parler à la presse. Une technique assumée, la guérilla urbaine. Leurs cibles, disent-ils, sont toujours matérielles et le plus souvent symboliques. Le saccage hier de l'ancien poste frontière, c'est eux. Mais ils assurent n'être pour rien dans l'incendie d'une pharmacie ou encore d'un hôtel.
Alors, bon, là, on va se mettre à l'écart. La police continue à affronter les Black Blocs qui sont habillés en noir. Donc, on voit pas mal de jeunes tunes noires. Et là, en fait, tout le monde, tous les jeunes des tunes noires sont en train de se donner des mots d'ordre. C'est-à-dire, selon le nom du groupe auquel on appartient, en pleine charge, enfin, quand il y a un moment d'accalmie au moment d'une charge, là, les policiers se sont un peu retranchés. Les Black Blocs tentent de se re-réunir en fonction des groupes auxquels ils vous appartiennent. C'est pour ça que si on entend derrière moi, chacun donne le nom de son groupe. Il y a plusieurs nationalités, mais il y a aussi à l'intérieur même de chaque nationalité des groupes différents. Et là, chacun appelle très fort le nom de son groupe. C'est bien organisé. Mais là, on est un peu dans une souricière. On est toujours sur la voie de chemin de fer. Devant, on a des policiers. Derrière, on sait qu'il y en a d'autres qui commencent à arriver. Et là, je vois un jeune, un Black Box vêtu de noir. Je vais essayer de lui parler. Et souvent, quand on s'approche pour leur demander s'ils participent au mouvement des Black Box, dans ces cas-là, on a souvent un refus. Mais je vais quand même demander. J'envoie un petit groupe à côté de moi.
C'est bon.
Vous avez des mots d'ordre en fait pour se regrouper, c'est ça?
Ah voilà, regarde. C'est ça le mot d'ordre.
On voit les CRS derrière là, on est sur une voie de chemin de fer en fait.
Ouais, on est sur une voie de chemin de fer et tout est complètement bloqué, les accès sont bloqués, on a des CRS derrière, des CRS devant. On peut plus avancer, là c'est la guerre. Là ça fait deux jours que je suis ici, c'est une atmosphère d'occupation. C'est l'occupation, c'est la guerre civile. Il y a tout qui brûle. On sait plus pourquoi, on est en train de se faire encercler là, donc on va se casser.
D'accord, bah je vous suis.
Hey, journaliste! No way! No way now! Get that so far!
Là, c'était un Black Box qui s'est beaucoup énervé contre moi, qui pensait que je prenais des photos. Donc c'est pour ça qu'il s'est énervé en me disant aux journalistes, pas de photos. Voilà.
Et maintenant, pensez à, par exemple, à la couverture du Figaro, où vous voyez les chefs d'État en train de se serrer la main, de se sourire. Madame Obama, Madame Carla Bruni, ou tous ces représentants des États sur la belle photo du G20. Pensez à ces images-là et regardez celle-ci.
J'aime bien M. Malo. Un grand chagrin, mais je le trouve aussi con les uns que les autres. Je suis très en colère, oui. Et d'une, parce qu'on a un droit expressivement important, c'est le droit d'expression. Et donc, de liberté d'expression et donc de manifester. Et nous sommes ici pour une chose bien précise, c'est de dénoncer le budget honteux en progression constante de l'armement, et y compris de l'OTAN, bien évidemment, puisque maintenant la France a eu le culot et l'outrecuidance de réintégrer le commandement de l'OTAN. Et il y a des petits cons qui se font manipuler par d'autres autorités politiques, et ça, ils n'en savent rien encore, pour venir nous casser cette manif. Il y a 50 000 personnes, voire plus, qui viennent du monde entier pour dénoncer ça. Et on ne retiendra qu'une chose. Ce sont les casques qu'il y a eu, ce sont des trous du cul qui sont en train de jeter des pierres pendant que d'autres se prennent des lacrymos dans la figure. Et ça, c'est scandaleux, d'un côté comme de l'autre. Voilà, oui, je suis en colère. Parce que nous, on a fait 14 heures de bus et on recommence 14 heures pour repartir, pour dire une chose, stop à l'armement, stop aux guerres, stop à l'OTAN. Et on est en train d'exactement vivre la même chose. Ça pète de tous les côtés. N'importe quoi.
Parce que là, en fait, on est sur une voie, il y a une voie ferrée, et les Black Box s'affrontent avec la police.
Mais bien sûr, mais la police a tout fait aussi pour encercler les gens. Et là, ces imbéciles, au lieu de réfléchir deux secondes et demie et de ne pas céder à la provocation, c'est eux qui provoquent et qui nous emmènent dans une souricière. Les gens sont venus pour dénoncer quelque chose. Et cette dénonciation, elle va passer au second plan, parce qu'il y a effectivement un immeuble qui a brûlé, parce qu'il y a des gens qui ont perdu effectivement une pharmacie dans leur quartier, parce qu'on est dans un quartier pauvre, parce que là où ça doit se jouer, c'est dans les industries qui sont en train de fermer en ce moment. C'est dans les gens, c'est chez les gens qui perdent leurs emplois. C'est là où ces jeunes devraient être pour faire masse. Ils s'en tapent le coquillard. Voilà.
Expliquez-moi, vous êtes combien à avoir fait 14 heures de car pour venir?
On est 100 qui venons des Bouches-du-Rhône et de la région PACA. 100, 120, on n'a pas dormi. Alors oui, on est un peu sur la cran, mais on s'en est pris plein les yeux, plein le nez comme tout le monde. Mais on n'est pas venu pour ça, on n'est pas venu dire ça, nous.
Votre prénom?
Catherine.
Et donc c'est le mouvement pour la paix, là on est à côté?
Le mouvement pour la paix, absolument.
On est à côté du camion du cortège?
Non, PACA et National, PACA. Parce que National, on est 1000.
Et vous avez fendu la foule, on vous a vu revenir de sous les lacrymogènes en criant de colère, parce que c'est ça qu'on va revenir du mouvement demain.
Quoi, la colère ou bien le fait qu'on ait échoué dans notre mission pacifiste? Alors, qu'est-ce qu'on prend comme argument? La colère ou l'échec? L'échec est le triomphe de ceux qui sont en train en ce moment de mettre des milliards sur la table pour sauver les banques, encore? Et pour ajouter encore au budget d'armement? 150 milliards? Au niveau mondial,
plus de 1 000 milliards de dollars par an.
1 300 milliards de dollars, 10% suffirait à sauver le monde de la famine. Il faut quand même réfléchir à ça aussi.
Au lieu d'aller faire de la provocation.
Donc on est vraiment des pacifistes, mais on est vraiment peinés de l'irresponsabilité de nos dirigeants qui commandent les forces de l'ordre. Et ceci dit, je ne dédouane pas ces merdeux avec des cailloux dans les mains qui sont là, cachés derrière leur cagoule, pour démolir un mouvement d'émancipation humaine.
Votre prénom?
C'est Régine Minetti du Mouvement de la Paix du Bouches-du-Rhône.
Mais attends, mais la jeunesse européenne, elle en a marre. Et les seniors européens et ceux qui travaillent en Europe, ils en ont marre. Ils ont d'autres moyens d'action et de parole. Mais ça, quand est-ce qu'on va pouvoir s'unir? Mais la lutte, oui.
Chacun s'exprime de sa façon. Sauf que là, la violence, elle est en face. Les flics, ils ont gazé tout le monde.
Les personnes âgées ne peuvent plus marcher.
Vous la rendez, la violence.
Mais moi, tu crois que ça me fait du bien d'être dans la... Dans les gaz lacrymo, on est essayant de partir d'ici, quoi, de rentrer ou quoi.
C'est bien les provocateurs, c'est bien les merdeux qui tout à l'heure vont s'en aller, qui n'ont rien à la tête par rapport à un combat politique au quotidien, parce que ça se joue au quotidien. C'est pas juste sur des manifs comme ça. Et moi, ce que je leur demande, c'est d'aller vraiment soutenir les salariés qui occupent leurs usines pour pouvoir garder leur outil de travail et leur salaire, parce qu'ils travaillent pour eux demain, le jour où ça, on l'aura compris, et là, on sera fort. Parce que tous ensemble, oui, à ce moment-là, tous ensemble, on pourra dire aux mecs qui nous gouvernent, on n'a pas envie de cette politique-là. On le sait, ok, il y a bien des gens qui l'ont élu. Il y a bien des gens qui l'ont élu, ce mec.
La démocratie libérale est à revoir aussi, quoi. Faut y penser à ça.
Oui, bien sûr, alors à ce moment-là, on va continuer à manifester pendant qu'il y a un immeuble qui est en train de cramer, puis que les habitants...
Moi, je sais juste que l'hôtel Ibis, il a cramé, mais apparemment, tout le monde était sorti, c'est tout. Est-ce que j'ai dit que c'était bien? Non, bah alors. Vous prenez la tête, là?
Dire qu'il faut revoir différemment. Alors revoyons différemment
nos propos
et nos façons de nous exprimer aussi, peut-être un jour comme celui-là. Parce qu'ici, c'était une manifestation pacifiste. On marche sur la tête.
Vous croyez qu'on est en territoire pacifié?
Alors là, non, d'après ce que j'en ai vu là.
Non, mais chaque jour au quotidien.
Attends, je sais, je le vis au quotidien. Justement, c'est un travail.
On est en territoire pacifié?
Du quartier.
On n'est pas en territoire pacifié, madame, alors arrêtez. Créons des communes alors.
Une question, ça reste anonyme. Donc là, on est en pleine discussion pour essayer de justifier ou pas l'action, c'est-à-dire, enfin, le fait qu'il y a des affrontements avec la police. Et vous essayez d'expliquer, parce que vous faites partie des Black Box ou pas du tout. Je sais pas. Enfin,
pas forcément. Non, mais pas forcément. C'est-à-dire que le Black Box, de toute façon, c'est un phénomène spontané. C'est on n'y adhère pas sur le moment. C'est tout dépend de notre propre perception. Mais ensuite, on est conscient que tous les affrontements là sont pas forcément très efficaces. Il faut savoir quand même que c'est l'État qui l'a mis en place, cet affrontement, avec ce dispositif. Après, c'était soi-disant une manifestation pacifiste. Certes, une manifestation pacifiste. Certes, on veut pas qu'il y ait des gens qui soient blessés ou un mort. Mais à un moment, il faut pas forcément savoir répondre, mais un minimum se défendre quand on est constamment attaqué. Et là, c'est une atteinte au droit de manifester qui est claire, parce qu'on essayait de passer simplement, et soi-disant sous des mesures de sécurité, comme ils essayent de le faire passer. Et le pire, c'est que ça passe très bien, justement, là, dans ce discours pacifiste, comme quoi les mesures de sécurité, il faut les respecter, etc. Sauf que c'est grâce à ces mesures-là qui nous bloquent. Et on nous permet pas de terminer le parcours. Donc forcément, il y a un moment, il y a une jonction entre des militants qui se veulent un minimum pacifiste, et puis les forces de l'État. Faites attention.
Alors là, il y a les policiers qui reviennent.
Et regarde, c'est pas les CRS qui
arrivent. C'est les CRS qui arrivent,
vous
nous chargez.
Tu crois?
Oui, je suis sûr. Nous, on est là pour manifester. Ben non, on nous charge, on nous balance des lacrymos plein la gueule. On pisse le sang, quoi. Totalement normal, ouais. La police a des droits, la police a le droit de frapper, la police a le droit de ci. Mais non, c'est pas normal. On a nos convictions, on est là pour manifester, pas pour se battre. Et ces gens-là, ils sont là pour se battre, pour casser des gueules. Pour casser des gens et arrêter le plus de manifestants possible.
En tout cas, ils se rapprochent de nous, gentiment, mais sûrement.
La France reprend donc toute sa place dans l'Alliance?
Nicolas Sarkozy.
Parce que la position de la France...
4 avril 2009.
...n'était plus comprise. Nous sommes de la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes des alliés. Nous sommes des amis.
Je prie à la défaite. J'en peux plus, c'est mon tour. Mon sac est bien trop lourd, c'est l'heure, je veux tomber. Tomber là, dans la boue, pour qu'un canon à bout portant sur moi. Tirez, tirez, je prie à la défaite. La guerre fait mal aux bras. La guerre fait mal aux pieds, se nourrit de trépas, cadavres, chair morte. Quitte la table en rotant, les morceaux recrachant, les monceaux de soldats, les morceaux d'ossements. Je prie à la défaite. Mon nom n'a d'importance. Pas de mort au combat, pas de mort pour la France. Je prie à la défaite. Qu'on me fasse tomber là, le sol n'est que crevasse, béance, plaies ouvertes. Qu'on me fasse tomber là. Les trous sont faits pour ça, pour ceux qui abandonnent. Elle est ici ma tombe, creusée par une bombe. C'est ici que j'arrête, je crie à la défaite. Je prie à la défaite. Je prie pour qu'une balle sifflant à mes oreilles, un dernier petit air se loge dans mes entrailles. Visez, visez ma faille, visez, visez mon cœur, je crie à la défaite. Catherine, Catherine, je sens que je vais rester là. C'est pas ma faute, Catherine. Ne m'en veux pas. Ils diront, il est mort pour sa patrie. Ils diront, il est mort pour empêcher l'ennemi. Il est mort pour la France. Il est mort au combat. Alors que je suis mort pour que ça s'arrête.
On continue. On continue, no to NATO, c'était la première partie de cette émission. La deuxième partie, c'est oui au diplôme. Et on retrouve, comme chaque mois, l'équipe du Monde Diplomatique pour cette demi-émission, donc avec le diplôme, avec Serge Halimi, avec Pierre Rimbert, avec Laurent Cordonnier et avec Maurice Lemoine, en regrettant de ne pas pouvoir évoquer ce formidable papier enquête de Thomas Deltombe dans le diplôme de ce mois-ci sur les guerres africaines de Vincent Bolloré. Mais ça n'empêche pas quelques commentaires. Bienvenue, le diplôme pas si diplomatique que ça.
On retrouve une partie, je dis une partie parce que c'est pas l'équipe au grand complet du Monde Diplomatique pour ce numéro d'avril 2009. On a beaucoup de questions à aborder, surtout beaucoup de bilans à faire, puisque c'était quand même ces jours-ci le week-end des bilans, des grandes orientations, des grands changements. Et le mot d'ordre, si j'ai bien compris en lisant la presse généraliste, vous allez me corriger s'il le faut ou pas, c'est que tout va bien. Tout est en train de changer, des rendez-vous historiques, on est en train de vivre l'histoire en direct. Le G20 a trouvé des nouvelles orientations pour l'économie et des budgets colossaux pour pouvoir refaire partir la machine. Et l'OTAN, même si la fête a été gâchée par des violences à Strasbourg ce week-end, là aussi, un nouveau pacte, une nouvelle orientation. Et tout ça, comme par hasard, était annoncé dans le monde diplomatique, mais peut-être pas exactement dans les mêmes prémices et avec les mêmes conclusions. Est-ce que j'ai bien compris, Serge Halimi ?
Ben, c'est-à-dire que nous, on avait identifié d'autres coupables que les quatre qui ont été choisis par le G20, qui sont, je le rappelle, le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l'Uruguay, qui sont donc à l'origine de tous les tourments qu'on a connus.
Oui, c'est le nouvel axe du mal.
Le nouvel axe du mal, et ce sont les paradis fiscaux d'où, en quelque sorte, est venue la crise. Moi, j'aimerais quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé à propos des banques et de la finance, puisque c'est à ça que le G20 devait remédier.
C'est le titre de votre éditorial, Nationaliser les banques.
Voilà. En revenant à l'exemple américain qui me paraît très, très parlant, et en le faisant de manière aussi simple, contractée que possible. Au lendemain de la crise de 1929, vous avez une finance américaine qui a été très étroitement réglementée. Sortait de la crise, on a voulu éviter qu'elle se reproduise trop vite. Et donc, à l'époque, être banquier, c'était une activité assez ennuyeuse. on parlait de la règle des 3-6-3, c'est-à-dire que vous empruntiez, vous receviez des dépôts que vous rémunériez à 3%, vous prêtiez à 6%. Comme l'exercice n'était pas exagérément difficile à comprendre, vous pouviez partir faire du golf à 3 heures de l'après-midi. 3-6-3. Et donc c'était une activité tranquille. Vous aviez des dépôts, vous les prêtiez et vous gagniez un bénéfice qui était d'ailleurs coquet, qui satisfaisait la plupart des gens, parce qu'à l'époque, on estimait que vivre avec l'équivalent de quelques centaines de milliers de dollars par an, ça suffisait. Pas besoin d'avoir des dizaines de millions de dollars pour avoir le sentiment d'avoir réussi dans la vie. Et puis, on a le tournant des années 80. Alors là, on estime que ce type de financement, de travail de banquier est très ennuyeux, insatisfaisant, et qu'il faut que les banques se diversifient, qu'elles prennent des risques. Et aussi qu'on décloisonne, qu'on rompe le mur entre banque de dépôt et banque d'affaires. Donc que les banquiers puissent utiliser leurs dépôts pour jouer en bourse, le cas échéant. Donc aux États-Unis, Pierre Rimbert va vous parler de la France plus tard, mais aux États-Unis, il y avait une loi de 1933 qui avait donc été votée au moment du New Deal, le Glass-Steagall Act, qui interdisait aux banques d'investir en bourse. Cette loi est abolie formellement en 1999 par une administration démocrate, puisque c'est l'administration Clinton. C'est la nouvelle économie, c'est la modernité, tout ça est balayé.
Se débarrasser des carcans,
des archaïsmes. Les banques n'ont plus besoin de dépendre de la confiance de leurs épargnants. Bon. Résultat de cette transformation, l'apparition d'une bulle financière et une part croissante de la richesse nationale qui va aux banques. En d'autres termes, entre les années 60 et les années 80-90, vous avez une finance qui ne cesse de grandir, d'enfler, et j'ajoute de devenir un secteur de plus en plus parasitaire dans l'économie, qui attire les meilleurs diplômés des universités en leur proposant des revenus de Maharaja. Dans le New York Times, il y a un peu plus de 2 ans, on citait des exemples, par exemple, de médecins qui abandonnaient la pratique de la médecine pour devenir consultants à Wall Street pour des laboratoires pharmaceutiques et pour devenir millionnaires. Bon, maintenant revenons à la banque une fois qu'elle est déréglementée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu de prêter, comme elle le faisait autrefois, 5 ou 10 fois ce que ses clients déposent sur ses comptes, elle va prêter 30 fois cette somme et elle va créer des produits financiers qu'elle-même ne comprend pas toujours, qui sont de plus en plus compliqués. Mais plus ils sont compliqués, parfois, plus ils sont lucratifs. Elle va multiplier le risque, puis créer des produits qui protègent contre le risque. Bon. Et à l'époque, personne ne comprend ces produits, ou très bien, mais personne ne s'en soucie, parce que la croissance et le rendement sont au rendez-vous.
L'argent
fait de l'argent, donc il n'y a aucune raison de se poser des questions. Et les gens qui se posaient des questions, dont nous, au monde diplomatique, nous sommes perçus comme des grincheux. Je rappelle que nous, dès les années 90, nous avons évoqué cette transformation. On n'a pas découvert hier, comme beaucoup d'autres, ce qui se passait et quels étaient les risques qu'encourait le système financier. Mais à l'époque, on ne s'en soucie pas parce que les États-Unis connaissent une période de croissance phénoménale. Donc, si vous ne montiez pas dans ce train de la finance en folie, c'est que vous étiez archaïque, demeuré, en fait, que vous n'aviez rien compris. Alors, on prête toujours plus, dans l'opacité, avec toujours moins de fonds propres. Et puis un jour, c'est-à-dire hier, en 2008, la corde casse, les banques s'écroulent l'une après l'autre comme des dominos, sont rachetées par leurs concurrentes, qui deviennent donc plus grosses. Et comme elles deviennent plus grosses, elles sont, c'est la règle, trop grosses pour faire faillite. L'État ne peut pas permettre qu'elles fassent faillite. Donc l'État, partout, et les contribuables, dans la précipitation, le couteau sur la gorge, renfloue les banques en faillite. Et ce n'est pas fini. À mesure que le temps passe, on découvre que des tas d'emprunts qui avaient l'air très raisonnables il y a 2 ans ou il y a 3 ans cessent de le devenir et qu'il va falloir payer toujours plus pour renflouer les banques. Donc moi, je concluais l'édito en disant qu'il est temps que l'État nationalise les banques. Il n'y a pas de raison particulière à ce que ces profits privés maintenant deviennent des pertes publiques sans fin, qu'une fois que l'État, en quelque sorte, rétablit la situation financière des banques, il les rende aux privés. Vous seriez dans la situation de gens qui auraient, en quelque sorte, dévasté un quartier. On rétablirait l'ordre dans le quartier, on leur dirait, revenez, continuez, refaites ce que vous aviez fait hier. Et je pense que cette proposition de nationalisation des banques, qu'on entend d'ailleurs de plus en plus, y compris dans des cercles assez éloignés de la mouvance du monde diplomatique, est à la fois raisonnable et quand on regarde ce qu'a été l'histoire du capitalisme dans les années 60, 70, où vous aviez un secteur financier réglementé, même nationalisé dans le cas de la France, eh bien, le bilan n'est pas si mauvais que cela, surtout quand on le compare à ce qu'on a connu depuis les années 80.
Toujours dans ce numéro du Monde diplomatique d'avril, Pierre Rimbert, vous poursuivez cette analyse qui est faite de l'impact de la financiarisation de l'économie et du poids qu'elle a maintenant sur nos sociétés. Vous étudiez vraiment l'histoire de cette ouverture des marchés, en France en particulier.
Oui, la question c'est pourquoi est-ce que les États ont un jour accepté de confier les rênes de l'économie au marché, puisqu'on voit aujourd'hui des dirigeants mondiaux essayer de reprendre un peu le contrôle de l'économie. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé au marché? Et cette question, on s'aperçoit que beaucoup ont intérêt à l'éluder. Par exemple, le 1er avril dernier, Nicolas Sarkozy était interviewé sur Europe 1 et il a évoqué, je le cite, un système financier qui s'est totalement dérégulé, qui marche sur la tête. Et là, on se dit que Jean-Pierre Elkabbach, qui l'interviewait, est un peu distrait, puisqu'il a omis de lui faire remarquer que le système financier ne s'est pas dérégulé tout seul. Il a été dérégulé. Aux États-Unis, ça s'est passé à partir de 1975, Serge Halimi l'a évoqué. Au Royaume-Uni et en France, ça s'est passé dans les années 80. Et ce sont des décisions politiques qui ont conduit à la dérégulation des marchés financiers, et plus particulièrement à la déréglementation de la bourse. Alors le cas français est particulièrement édifiant, puisque cette déréglementation de la bourse s'est produite entre 84 et 88, grosso modo, sous l'impulsion d'un gouvernement de gauche. C'est une espèce de miracle du socialisme, hein, en l'espace de 4 ans. Tout le vieux système boursier français, qui datait de 2 siècles environ, a été libéralisé, rénové et placé au cœur de l'économie. Parce que il y a 30 ans, ça ne marchait pas comme ça. Le financement de l'économie était soit assuré, soit orienté par l'État. Et dans ce schéma, les marchés financiers ont une place marginale. Et la bourse stagne complètement. C'est la politique qui dirige l'économie. Et c'est ce schéma qui va être renversé, retourné, dans les années 80, avec cette réforme des marchés financiers. De sorte que c'est la puissance publique elle-même, c'est l'État lui-même, qui va organiser son propre retrait au profit des marchés financiers.
Mais alors tout ça, pour arriver à la question que vous posez aussi dans cet article, c'est l'utilité sociale de la finance. Quel sens a donc eu tout ce mouvement de fond des 25 dernières années, si c'est pour juger à l'aune de notre petit présent?
Oui, alors on peut se demander pourquoi est-ce que les socialistes ont procédé à cette réforme, enfin ont initié cette réforme, au demeurant assez peu socialiste. Alors il y a un aspect un peu singulier dans cette réforme de la bourse, c'est qu'elle a été présentée par les socialistes comme une réforme progressiste. Elle a été présentée comme une réforme de gauche. On peut se dire, c'est un peu curieux quand même, libéraliser la bourse et en faire une réforme de gauche. Alors comment est-ce qu'ils ont fait passer cette vessie libérale pour une lanterne socialiste? Eh bien, en surfant sur l'air du temps, et puis en jouant avec les mots. En surfant sur l'air du temps, parce qu'il faut se rappeler, 1984-1988, c'est la période de l'argent triomphant, c'est Bernard Tapie à la télévision, c'est Vive la crise, c'est un peu les années bling-bling avant l'heure, hein, c'est la réhabilitation de la concurrence, du profit, etc. Et puis, Pierre Bérégovoy, qui est ministre de l'économie et des finances, et qui va être l'architecte, avec son directeur de cabinet Jean-Charles Naouri, de cette réforme de la bourse, va présenter la libéralisation des marchés comme un coup porté à une institution qui, aux yeux des militants socialistes et de beaucoup de Français, incarne le mur de l'argent. Cette institution, c'est la Compagnie des agents de change. Les agents de change, depuis 2 siècles, sont les maîtres de la bourse en France. Ils trônent au Palais Brongniart, donc là où était, il y a encore quelques années, instituée la bourse. Et Bérégovoy va dénoncer les privilèges, le monopole, le corporatisme de cette compagnie des agents de change qu'il entend démolir. Et Vraiment, il faut beaucoup d'imagination et beaucoup de bonne volonté pour présenter cette corporation comme progressiste. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'en 1967, les femmes ont été interdites d'accès à la Bourse de Paris puisqu'elles étaient soupçonnées de déchaîner la passion de l'agiotage et de vendre leurs dettes contre leur charme. Bon, c'est pas une institution particulièrement progressiste. Et Pérégovoy joue sur du velours en expliquant que sa réforme des marchés financiers va porter un coup décisif à la compagnie des agents de change. Dit bon, nous allons abattre le mur de l'argent. En réalité, ce choix de changer de modèle économique a érigé un autre mur de l'argent, parce qu'au fond, cette réforme des marchés financiers a placé la bourse, le financement par les marchés au cœur de l'économie, avec des conséquences que l'on connaît aujourd'hui, puisque une entreprise qui va trouver ses financements sur les marchés financiers doit se soumettre aux impératifs de ceux qui la financent, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les assurances. Et ces investisseurs ne recherchent pas le bien-être social, ils recherchent des profits rapides. Donc ça va être la dictature du court terme sur le long terme, la dictature du profit sur le développement, l'investissement, etc. La création de valeur, ce qu'on appelle la création de valeur pour l'actionnaire. Et puis une autre conséquence, ça va être le développement, Serge Halimi en a parlé, des banques. Les banques vont devenir elles-mêmes des agents de change, vont s'engager, vont plonger dans le grand bain moussant des marchés financiers et vont se mettre à triturer les produits, à titriser leurs avoirs, etc., avec les conséquences que l'on connaît, conséquences qu'on a eues en France assez tôt, hein, avec l'affaire du Crédit Lyonnais et que l'on voit encore aujourd'hui.
C'est comme ça qu'on en arrive au titre de votre article. Nous avons eu le pouvoir, maintenant il nous faut l'argent, qui est une citation justement de ce monsieur Naouri qui était conseiller de Pierre Bérégovoy, qui, si j'ai bien compris, a fait précisément ce choix-là de quitter les bureaux ministériels pour se rentrer dans le grand bain de la finance enfin libéralisée, c'est bien ça ?
Nous avons eu le pouvoir, maintenant il nous faut l'argent. C'est un propos qu'aurait tenu Jean-Charles Naouri au moment où il quittait le ministère de l'économie et des finances en 1986. Et dans son cas, la prophétie s'est accomplie sans trop de difficultés, puisqu'aujourd'hui, il est 38e fortune française.
La base est ici.
Toujours dans la suite de votre édito de ce numéro du mois d'avril 2009 du Monde Diplomatique, Serge Halimi qui disait nationaliser les banques. Et vous n'avez pas manqué au passage de nous dire le bilan de la déréglementation financière, le voilà. Voilà, on est arrivé et là, on voit quoi ? Tous les interlocuteurs et tous les acteurs de cette déréglementation qui sont les pompiers.
Absolument, absolument. La vérité, c'est que maintenant, vous avez plutôt intérêt à avoir été écouté dans les médias dans les années 80-90 et plus récemment pour avoir défendu le libéralisme économique, pour maintenant venir en disant « mais depuis trois semaines, moi j'explique que ça ne peut plus durer ». Comme ceux qui, à l'époque, expliquaient que ce système n'était pas durable indéfiniment, ont été écartés en quelque sorte des cénacles publics où on explique ce qui se passe, on ne va pas les faire revenir maintenant pour signaler que pendant 20 ans ou 30 ans, on les a tenus à l'écart. Donc on fait revenir les mêmes, c'est une chose qu'a expliqué Frédéric Lordon dans d'autres circonstances, on fait revenir les mêmes en les présentant comme en quelque sorte les prophètes qui avaient annoncé la catastrophe. Et très souvent, ce qui est amusant, c'est que comme économiste, les plus réputés, vous avez des gens qui sont salariés par des banques, qui travaillent pour des banques d'affaires, qui travaillent pour Lazard Frères. Vous avez des économistes qui sont rattachés à Lazard Frères, rattachés à Natixis, qui sont présentés en quelque sorte comme vraiment des oracles. Et on se demande quelle était la valeur de leurs oracles pour qu'on se trouve aujourd'hui dans la situation qu'on connaît.
Mais vous me tendez la perche, cher Lémy, pour justement s'adresser à un économiste qui va peut-être nous apporter quelques lumières à ce sujet. C'est vous, Laurent Cordonnier, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille 1. Le titre de votre article, Rustine sur le Titanic de la finance globale.
Oui, si on regarde ce qui s'est passé au G20 de ce début de mois, la chose véritablement la plus frappante, c'est tout de même qu'on ne touche à rien. On ne touche à rien. Simplement, on va le regarder d'un tout petit peu plus près. On va le superviser. On va faire du reporting. On va éventuellement le réguler. Mais simplement, on laisse en place l'ensemble des types d'opérations, d'acteurs, de marchés qui ont provoqué l'ensemble des dégâts dans la finance contemporaine. Et quand on lit le communiqué du G20, on est frappé du fait que il y a vraiment une espèce de langage en double bind, en double contrainte. D'une certaine façon, on reconnaît la capacité de nuire de tout ce qui est en place, et puis on affiche la volonté de ne pas aller trop loin dans cette capacité de nuire, qui prouve que, franchement, rien n'est fait de sérieux pour s'orienter vers de bonnes mesures. Mais au-delà même de cette crise financière qui a mis le feu aux poudres, je crois qu'il faut tout de même dire que l'économie de la dépression qui est en place depuis 15 ans restera en place à l'issue de ce petit toilettage, qui est vraiment un petit toilettage. Les trois piliers de cette économie de la dépression dont a parlé Paul Krugman, d'ailleurs assez tardivement, on les connaît, c'est la dictature des actionnaires sur les entreprises, c'est-à-dire finalement des entreprises qui sont gouvernées uniquement dans le souci de rapporter quelque chose aux actionnaires, donc qui mettent sous l'été noir la dépense d'investissement et la progression des salaires. Vous avez déjà les deux piliers de la formation de la demande dans l'économie qui sont quasiment bloqués à la source par cette action sur les entreprises. Deuxième pilier, la concurrence des pays à bas salaires qui continue à tirer vers le bas la formation des salaires dans l'ensemble des pays anciennement industrialisés. On n'a pas cherché du tout pour l'instant à y mettre bon ordre. Où sont les propositions de réorganisation du commerce international sur des bases sociales et environnementales? Évidemment, on n'en voit pas les prémices. Et puis, troisième pilier de cette économie de la dépression, alors lui, il a tendance à vaciller un petit peu dans la crise, ce sont bien entendu toutes les politiques macroéconomiques de type orthodoxe qui ont été mises en place sur les 20 dernières années. Alors, elles sont un petit peu ébranlées, les déficits budgétaires partent à toute allure, les taux d'intérêt des banques centrales, évidemment, plongent dans la crise. Donc, dans l'urgence, on voit bien que le couvercle de ces politiques orthodoxes a sauté. On nous prévient tout de même que la fête pourrait être rapidement finie dès que les choses auront rebondi correctement, qu'il ne faut quand même pas s'enthousiasmer. Bon, ces trois piliers-là, malgré tout, sont toujours en place et on ne voit pas du tout comment, en les laissant en place, on peut sortir d'une économie de la médiocrité telle qu'on l'a connue depuis 25 ans. Donc on peut tout de même se faire beaucoup de soucis sur le fait que cette crise aurait des vertus réparatrices. Je pense que la crise n'est pas rédemptrice et ne fournira pas de nouvelles occasions de rebondir à un capitalisme plus dynamique.
Serge Rémy.
Oui, j'ajoute que la question centrale n'est peut-être pas de réparer la finance, mais de réduire sa place dans l'économie.
Atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Em cada prédio traços de uma cultura, interior das nossas recordações. Mamãe contava, tinha muda sem cabeça, pé de manga, mala sombra lá debaixo do coité. De madrugada, grito de povo sangrando, copo de cachaça fresca pro caboclo festejar. Saravateca, rapadeira, mandioca, genipapo, milho verde e fogo de catolé. Sou de Pernambuco, sou das prenhas do interior. Estou por aqui, estou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo, sou, estou por aqui. Sou trabalhador, sou de Pernambuco, sou das prenhas do interior. Estou por aqui, estou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo, sou, estou por aqui, estou, sou trabalhador.
Laissons de côté un peu la crise financière pour la suite du sommaire de ce Monde diplomatique d'avril. Quoiqu'on n'en soit pas si loin que ça, Maurice Lemoine, puisque c'est un dossier consacré au Brésil, qui est fait par Philippe Revelli et Christophe Ventura, pas si loin de la crise financière, parce que le Brésil, justement, était présenté dans toutes les gazettes économiques comme un modèle d'économie exportatrice, basée sur les technologies pointes, les agrocarburants. Et cet article nous présente un peu l'envers ou le côté beaucoup moins heureux du bilan de M. Lula da Silva.
Oui, le Brésil, c'est un peu un pays à la mode pour lequel on a beaucoup de sympathie. D'ailleurs, on a raison d'avoir de la sympathie pour le Brésil. Le président Lula a intégré le G20, puissance émergente, avec un discours parfois un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'il s'élève contre les marchés financiers, mais en même temps prône la libéralisation du commerce. Et on s'est intéressé à Philippe Révelli en particulier, dans son enquête à la canne à sucre. Révelli a commencé son reportage dans l'état de São Paulo, dans d'immenses plantations de canne à sucre. Et là, je veux dire, on a un paysage finalement qu'on connaît bien quand on parle de l'Amérique latine, des milliers de travailleurs temporaires, embauchés pour 8 mois, qui coupent la canne à sucre, donc avec la machette, technique qui vient d'un autre âge, sous un soleil de plomb. Je vais pas en rajouter dans l'exotisme, mais enfin, c'est un travail extrêmement dur, c'est un des travaux les plus durs du monde. 5 jours de travail, 1 jour de repos. Et il faut savoir que dans les années 80, un coupeur de canne au Brésil coupait 4 tonnes par jour, et qu'aujourd'hui, sous la pression des patrons, le rendement moyen est de 10 tonnes par jour. C'est quelque chose d'énorme. Et il faut savoir que là, enfin il faut savoir ou il faut pas savoir, mais en tout cas c'est ce qu'on raconte dans le reportage, que dans la dernière décennie, la part du Brésil dans les exportations mondiales de sucre est passée de 7% à 62%. Et là, dans le phénomène qui va se développer, ou qui est censé se développer, que le président Lula tente de développer à grande allure, va s'insérer le problème de l'énergie verte qui est l'éthanol, c'est-à-dire cet alcool qu'on tire de la canne à sucre. Il y a un grand problème global, c'est le pétrole, la fin du pétrole, les prix du pétrole, le réchauffement climatique, il faut repenser le mode de développement, et donc on pense aux agrocarburants, c'est-à-dire des carburants produits à partir du maïs, de la canne à sucre, d'un certain nombre de dents. Alors, après se pose, indépendamment du problème social de ces travailleurs, se pose la question de est-ce que c'est vraiment une énergie verte ? Alors d'abord, il y a évidemment les apports chimiques, les engrais qui polluent les nappes phréatiques, ça c'est classique. Le plus amusant, c'est que quand on regarde les campagnes brésiliennes, en période de canne à sucre, c'est pas spécifique au Brésil d'ailleurs, vous avez des tonnes de cendres qui volent dans le ciel parce que on brûle la canne à sucre avant de la couper. Ça a des raisons techniques, ça rend plus facile la récolte, il y a davantage de saccharose. Et par exemple, dans l'état de São Paulo, au Brésil, chaque jour, 285 tonnes de particules toxiques et 3342 tonnes de monoxyde de carbone sont dégagées par ces brûlis. Bon. Ce qui fait qu'en termes d'énergie verte, on peut quand même se poser la question. Néanmoins, il y a en ce moment des investissements absolument phénoménaux dans les agrocarburants au Brésil, avec, je ne vais pas vous surprendre, Monsanto, qui arrive en particulier avec canne à sucre OGM, mais aussi les groupes français, c'est Béguinsay, c'est la Société Générale, à travers une filiale qui s'appelle Bioenergy Development Fund. Et donc se pose le problème, est-ce que cette énergie verte, indépendamment des problèmes écologiques qu'on vient d'évoquer, ne provoque pas, d'une certaine manière, un désastre social. Parce que, en fait, c'est une nouvelle culture de canne à sucre qu'on va développer, qu'on va multiplier, se substitue à des cultures déjà existantes. Entre 1990 et 2016, dans l'état de São Paulo, toujours, on pense cet état comme référence, on a perdu 261 000 hectares de culture de haricots, c'est-à-dire 400 000 tonnes, et on a perdu 340 000 hectares de riz, c'est-à-dire 1 million de tonnes. Donc c'est au détriment de l'alimentation de la population. Et puis, par ailleurs, il y a un effet domino. Il est évident qu'au fur et à mesure qu'on met de la canne à sucre, qu'on étend la canne à sucre, les autres cultures se déplacent. De sorte qu'en ce moment, on voit le soja, le maïs, mais aussi les troupeaux se déplacer, en particulier vers la région du Pantanal, qui est une région extrêmement riche en biodiversité, et vers l'Amazonie. Donc on passe son temps à déplorer la déforestation. Donc c'est un vieux problème au Brésil, tout le monde le sait, qui réclame une réforme agraire. Il y a toujours 4 millions de familles de paysans sans terre.
Alors que Lula avait été élu avec l'appui, en tout cas partiel, du mouvement des travailleurs sans terre, qui appelait, dont le mot d'ordre était réforme agraire.
Bien sûr, tout à fait. Ça a été la revendication principale du mouvement des sans terre, qui a été reprise d'ailleurs à l'époque par le Parti des travailleurs. C'est vrai qu'il y a eu un effort du gouvernement de Lula, il ne faut pas le nier, puisqu'ils ont distribué environ des terres à 500 000 familles. Néanmoins, on est très très loin du compte, et il est évident que ce modèle de développement va complètement à l'encontre d'une humanisation des campagnes brésiliennes, et effectivement, le mouvement des sans terres est en train de se transformer en un parti extrêmement puissant, qui jusqu'à présent, parce qu'il s'agissait de Lula, un dirigeant charismatique, ancien syndicaliste, premier président ouvrier, non pas trop remué dans les brancards, mais lorsque Lula ne sera plus au pouvoir, il est vraisemblable qu'on va voir le mouvement Les Sans Terres prendre de la puissance au Brésil, et sans doute aura-t-on des mouvements beaucoup plus raides que ce qu'on voit en ce moment.
Merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Maurice Lemoine, Laurent Cordonnier, Pierre Rimbert et Serge Halimi. Merci au reportage, à la reporter Pascal Pascariello qui était à Strasbourg. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. J'ai oublié de vous parler de très important atlas du monde diplomatique, un monde à l'envers pour tout comprendre sur ce qui se passe dans le monde. Voilà la clé. Et puis, j'ai oublié de remercier tous ceux qui m'ont reçu au cours de ce week-end à Haute-Savoie, la Turbine à Grange-Vrier, le cinéma, le parc, très sympa, la Roche-sur-Foron, et puis le Parnal à Torrens-Glire. On a passé un week-end absolument fabuleux. Toutes les informations, je l'ai dit, sont sur le site France Inter. Vous pouvez y faire des commentaires ainsi que sur labas.org. Réécoute et commentaires souhaités. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincel et Aveline Carmois, Koye Nguyen et Raphaël Moutière dont ont laissé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Le Bot. Attend vos messages au répondeur de la base. J'explique que le 01 56 40 37 37 réclame.